distributes food and serves hot meals to neighbors in need. The Milton Park Bazaar will be held at 3594 Jean Moss in the basement of St. John's Lutheran Church from 12 to 6 p.m.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur CKUT au 90.3 FM, sur l'émission Café, comme à tous les vendredis à 18h. Céline qui vous parle, je suis seule en studio aujourd'hui, mais on a quand même un énorme programme, énorme, c'est un grand mot, là. On a un beau programme aujourd'hui. Trois entrevues que j'ai réalisées cette semaine et une belle sélection musicale également. La semaine passée, je vous avais parlé de Laissez-nous raconter, réalisé par Kim Obomsawin. C'est une série télévisée qui est sortie il y a quelques semaines, puis il y a un épisode à chaque semaine et le dernier sort demain. Donc, je vais vous partager une entrevue que j'ai réalisée avec donc, la réalisatrice Kim Obomsawin. Je vais aussi vous parler de Superheroes Cry 2, une performance que je suis allée voir hier et avec qui j'ai discuté avec les créateurs et le créateur et la créatrice. Donc, je vais vous partager cette entrevue-là également. Et aussi, je suis allée voir Le Clone est triste au théâtre aux Écuries et j'ai interviewé les metteurs en scène, donc Olivier et Guillaume. Donc, voilà, c'est ça pour le programme d'aujourd'hui. Donc, Laissez-nous raconter, c'est réalisé par Kim Obomsawin, qui avait également réalisé le docuportrait de Joséphine Bacon, Je m'appelle humain, sorti en 2020. Et elle signe maintenant cette série documentaire, Laissez-nous raconter, qui est diffusée sur Ici Télé. Je vais vous rappeler la description. Donc, 11 premiers peuples, 11 cultures, 11 langues. Laissez-nous raconter la beauté de nos langues, ainsi que celle de nos cultures et de nos savoir-faire, qui se transmettent depuis des millénaires grâce à la tradition orale et aux gens qui portent les savoirs. Les politiques assimilationnistes et colonialistes menées par John A. Macdonald n'auront pas vaincu ni anéanti les premiers peuples. Donc, comme je vous ai dit, il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis. Vous pouvez faire du rattrapage sur Ici Télé si vous en avez besoin. Et le 4e épisode sortira demain. Je crois que c'est à 21h, donc samedi à 21h. Ce que j'en ai pensé jusqu'à maintenant, c'est que Kim a vraiment réussi à faire ressortir la beauté des nations autochtones, la richesse de leurs ancêtres et des milliers d'années qu'ils ont vécu en harmonie avec la nature. Elle refait l'histoire, en fait, depuis l'arrivée de Jacques Cartier et de sa prétendue découverte qui n'en était pas du tout une. Finalement, là, on s'en rend bien compte, on le sait au fond de nous, tu sais, que l'Amérique n'a pas été découverte, elle existait, il y avait déjà des gens dessus. Mais ça le rend pas mal plus officiel, je dirais, par cette série, puis ça l'installe vraiment dans nos têtes que ça a pas été découvert, ça a été envahi. Et ça raconte vraiment l'histoire du point de vue des nations autochtones et je trouve que c'est un point de vue extrêmement précieux par rapport au sujet. Ça mérite de la visibilité et ça mérite aussi vraiment de se retrouver dans les livres d'histoire du primaire et du secondaire. Donc, je vous recommande fortement cette série télé, Laissez-nous raconter. Et je vous partage à l'instant mon entrevue, dans le fond, que j'ai réalisée avec Kim. Premièrement, j'ai regardé un peu les épisodes qui sont sortis. J'ai vraiment aimé la série. Fait que je vais dire bravo pour le gros travail que ça a dû prendre depuis, je sais pas, plusieurs mois, plusieurs années. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus?
Plusieurs années, oui.
Ouais, j'imagine.
Projet, je pourrais dire presque 5 ans.
Ah ouais, ouais. Ok, quand même.
Ouais. Ouais, ça a été un long processus de travail, cette série.
Ok. Puis, c'était quoi ton but? Est-ce que tu avais des buts principaux, des messages particuliers que tu voulais appuyer en faisant cette série-là?
Ben, l'idée, c'est pas mon idée originale, c'est-à-dire que c'est un projet donc qui était dans les volontés de notre feu, notre le fondateur de Terre Rino, Réginald de Volant, puis Ninou de Lopachap, Marie-Thénard, pardon. Et puis donc lui, son rêve, c'était vraiment de faire de la place pour laisser les premiers peuples se raconter eux-mêmes. Puis on a commencé à développer le projet avec lui, on l'a pitché à Radio-Canada, mais malheureusement, Réginald est décédé. Donc on a pris, il nous a fait promettre de poursuivre, donc on est vraiment parti de là avec notre mission, puis on s'est engagé dans un long processus, puis vraiment processus, parce que le processus était tout aussi important que le résultat, c'est-à-dire que à toutes les étapes, qu'il y a des pas seulement des consultations, mais du travail avec les communautés, qu'on embauche aussi à tous les postes clés, créatifs, des membres des Premières Nations. Donc, tous les postes créatifs ont été comblés par des membres des Premières Nations. Puis ça, ben, c'est une grande, grande fierté d'être arrivé. Mais tout ça a fait que la série a pris plus de temps. Donc, ça l'a alourdi la façon de travailler, mais en même temps, ça l'a tellement donné à la série en authenticité que c'était la meilleure chose à faire, puis ça a été une aventure fantastique.
Ben oui, j'imagine. Puis c'est sûr que vous n'avez pas pris le chemin le plus facile, si on peut dire, mais c'est quand même celui qu'il fallait prendre pour que la série arrive où est-ce qu'elle est arrivée.
Exactement.
C'est vraiment intéressant. Puis est-ce que c'est la même équipe qui vous a suivi partout ou dépendamment de où est-ce que vous alliez, si l'équipe changeait un petit peu?
C'est-à-dire que, mettons, à l'état de la recherche, c'était important pour moi que chacun qui ait un recherchiste par peuple, donc 11, donc 12, puis que la recherche soit faite par quelqu'un issu de sa nation, donc la personne partait dans les communautés, la communauté de sa nation, puis faisait une recherche donc qui était vraiment une recherche de l'intérieur, donc cognait à des portes, ça ouvrait des portes plus facilement, évidemment. Pour la personne, ça a été tout le monde a dit que ça a été parce que c'est pas nécessairement des gens qui font ça dans la vie, on les a formés pour qu'ils puissent être capables de le faire. Puis donc ça a été super gratifiant pour eux, puis ils en ont appris énormément sur eux-mêmes, sur leur peuple, sur leur histoire. Donc ça a été la première grosse étape. Puis c'est à partir de ce matériel-là qu'on a pu écrire la série à 6 scénaristes, 3 autochtones, 3 allochtones. Donc à partir de ce matériau-là. Puis après ça, ben, en production, c'était toujours la même équipe technique qui me suivait, qui n'était pas autochtone. C'est mon équipe technique depuis toujours, mais il faut savoir que dans le milieu, on n'a pas vraiment beaucoup de preneurs de son, de directeurs photo. Par contre, sur place, dans les communautés, on embauchait toujours un fixeur ou un facilitateur, on peut dire en français, qui faisait soit la traduction, ou sinon on avait un facilitateur pour un traducteur. Donc, on a créé aussi de l'emploi partout où on est passé, puis on a embauché des guides, on a embauché des gens pour nous faire des setups de bâtir un igloo, monter une tente traditionnelle, etc. Donc, c'était aussi cette intention-là de redonner le plus possible aux communautés puis au plus grand nombre de gens possible. Puis c'est ce qui va se passer maintenant que la série est sortie. On redonne tout le matériel aux communautés à travers un travail qui s'annonce très laborieux, mais très, très important pour nous sur le plan éthique, parce que c'est pas quelque chose qui se fait d'habitude. Les compagnies de prod ou les diffuseurs gardent jalousement leur matériel. Dans notre cas ici, ces histoires-là appartiennent aux nations elles-mêmes, elles ne nous appartiennent pas. Puis c'est bien important pour moi que n'importe qui a participé à la série puisse avoir accès aux images, aux sons, aux entrevues qui ont été faites avec leurs aînés des fois ou avec leurs enfants.
Mm-hmm. C'est vraiment fascinant. Puis c'est fou comment c'est différent d'un processus autre pour une autre série qui n'est pas sur ce sujet-là. Puis je trouve ça vraiment... vraiment génial, en fait, que, justement, vous dites que les recherchistes faisaient partie des nations, mais eux-mêmes, ils ont appris de leur recherche pour le documentaire, fait que ça a vraiment, ça a concrètement donné aussi aux communautés que vous alliez voir, ça leur a enrichi leur bagage aussi.
Ça l'a fait vraiment, le résultat, ça a été une recherche hyper authentique, avec des personnages très, très forts, qui avaient la légitimité, disons, de parler, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas parler à tout le monde. Il y a quand même plus d'une centaine de visages là, qu'on voit à travers les 4 épisodes. Mais il a quand même fallu choisir des gens. Puis là, déjà, l'important, c'est des choix. Puis là, il y a des gens qui pourraient se questionner pourquoi lui puis pas moi, c'est sûr. Mais au moins, en partant d'une recherche qui est faite par des gens de la place, ben on s'assurait au moins d'avoir des gens qui font l'unanimité au sein de leur communauté, tu sais, qu'on prenne pas le premier venu, puis après ça, savoir que c'est une mauvaise personne, il y a un passé douteux.
Oui, je comprends. Puis est-ce que la forme d'une série, elle s'est imposée par le fait qu'il y avait beaucoup de matériel, puis que ça permettait de mettre plus de matériel au final, ou ça, comment ça a été choisi le format?
Ben, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, moi, j'ai fait surtout dans ma carrière des longs métrages. Mm-hmm. J'ai participé à quelques séries documentaires. Mais là, vraiment, ça s'imposait de soi parce que l'objectif, c'était vraiment de rejoindre, de faire quelque chose d'assez mainstream pour rejoindre un public très large. Mais évidemment, quelque chose de grande qualité, donc amener un peu de cinéma là, à la télé, mais d'avoir des propos puis des histoires, qu'on raconte ces histoires-là de manière assez simple pour aller chercher vraiment monsieur, madame, tout le monde. Donc, souvent, quand on fait des films, ben on va en festival, on va en salle, puis les gens choisissent de venir nous voir. Puis souvent, on parle à un public déjà convaincu ou connaissant. Dans ce cas-ci, on voulait vraiment rentrer dans le salon des gens. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher un auditoire différent. Après, la série va avoir une longue vie. On espère aussi qu'elle va faire l'objet de qu'elle soit utile, en tout cas en classe, donc qu'elle se rende dans les salles de classe, dès le secondaire, mais aussi cégep, université. Donc, que ça fasse vraiment œuvre utile. Mais on va aussi aller faire la tournée des festivals là, pour aussi faire rayonner la série puis qu'elle soit pérenne dans le temps.
Oui, puis je pense vraiment que ça va se passer comme ça. Puis même que si la série n'est pas complètement diffusée dans les cours, elle va au moins être utilisée par les profs, à mon avis. Là, ça va être, il faut que ça change oui. Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes dans les écoles.
Oui, puis les profs, moi, je sais, j'ai 2 enfants, puis je me promène beaucoup. J'ai moins de temps là, qu'avant, mais je me promenais beaucoup dans les cégeps pour faire des conférences et tout ça, tu sais. Puis je m'en rends bien compte que les profs ne sont pas plus connaissants que leurs élèves, donc ils se sentent un peu démunis, puis c'est normal parce que tout a été fait pour qu'on ne parle pas de nous dans les manuels scolaires, puis donc faut éduquer ceux qui éduquent nos enfants, puis leur donner des ressources, puis ça, ben, je pense que ça va en être une qui peut être pertinente parmi plein d'autres, parce que j'ai plein d'amis aussi de collègues qui font des choses aussi fabuleuses. Puis on est à un beau moment dans l'histoire où justement les gens ont envie de nous découvrir, d'entendre parler de nous, puis de rectifier des pans d'histoire que c'est pas correct de laisser de côté.
Oui, absolument. Donc, c'était l'entrevue avec Kim Obom-Sawin. Donc, je vous rappelle d'aller écouter la série télé qui s'appelle « Laissez-nous raconter » sur Ici Télé. Maintenant, je vous parle de Mirabelle qui a sorti un nouveau EP. Ben, qui va sortir un nouveau EP le 27 janvier prochain, qui va s'appeler Flickering Lights. Et maintenant, en ce moment, avant que le EP sorte, Mirabelle propose une jolie pièce dans des fêtes qui est nommée Céleste. Et, le morceau est co-réalisé par l'artiste elle-même et Vincent Legault, qui a aussi assuré les arrangements. Et on y retrouve également Thomas Sauvé-la-France au grelot et à la batterie.
Le sapin, les lumières et en trame de fond. Tourne et tourne et tourne le Noël de Charlie Brown. Comme nos pas dans la neige, les souvenirs disparaissent. Sous les manteaux cachés, la guerre des tuques, les enfants. Flocons faits de papier constelle la maison.
Vous venez d'entendre Céleste de Mirabelle. Soyez à l'affût pour son EP donc, qui va sortir le 27 janvier prochain. Je vous parle maintenant de la pièce Le clone est triste qui est présentée du 2 au 17 décembre au Théâtre aux Écuries et qui accueille donc la joyeuse bande du Théâtre du Futur avec la reprise de son réjouissant succès Le clone est triste. Une rocambolesque comédie futuriste où le clonage illégal alimente les frictions entre les générations X, les Y, les Z, les milléniaux, mais surtout les baby boomers. Donc, revisitant à travers la lunette du futur l'héritage mirobolant des boomers, le clown est triste évoque le thème de la transmission pas toujours facile d'une génération à l'autre, celle des baby boomers en premier lieu, mais aussi celle de la génération X, des milléniaux et de leurs futurs enfants à venir. Ce luxueux concert de salon aux arômes victoriens transportera les spectateurs et spectatrices dans l'univers d'Agatha Christie et de Sherlock Holmes sur les airs de Schubert. En mélangeant pièces de théâtre, cabaret, show d'humour, spectacle de danse et critique sociale, le théâtre du futur nous plonge dans un univers à la fois délirant et lucide. J'ai vraiment trippé. Pour résumer, je suis allée voir ça, c'était mardi, il me semble. J'ai vraiment trippé, puis c'était la première fois, en fait, que j'allais au théâtre aux Écuries, puis la salle en soi est vraiment belle. C'est une grande scène, puis les interprètes... Je vais vous les nommer maintenant. Il y a donc Navet Confi, Marie-Claude Guérin, Gaëlle Laine Lepine, Olivier Morin et Guillaume Tremblay. Et la musique a été composée par Navet Confi et Philippe Prudhomme. Je vais vous lire le résumé de la pièce en tant que telle. Donc, les années passent jusqu'au jour où Gilles Douillette, un citoyen hautement banal, découvre à la dure qu'il est un clone. Mais le clone de qui? Ça, c'est un mystère. Le désormais fugitif Gilles Douillette fait appel au Club des Marquis, un groupe d'enquêteurs amateurs, pour découvrir qui, comment et surtout pourquoi son créateur l'a conçu à son image. Cette bande d'aristocrates de pacotille multiplie les galipettes, énigmes et chansonnettes pour faire la lumière sur le meurtre d'un clone. Mais s'agit-il bien d'un clone ou qui est véritablement, excusez-moi, le dernier baby boomer? Donc c'était vraiment super bien fait, super bien écrit. Les interprètes m'ont vraiment impressionnée par leur rapidité d'interprétation. Ça bouge quand même beaucoup. Nous, c'est pas difficile à comprendre, c'est pas difficile à voir, mais pour les interprètes, pour vrai, ça a dû être un gros travail de préparation. Puis en plus, il se passe le personnage, comme on va en parler dans l'entrevue avec Olivier et Guillaume, il se passe le personnage principal d'un interprète à un autre. Donc ça demande vraiment beaucoup de... Puis il change d'accent, ce qui est comme... un tour de force, là, genre, il change d'accent, il change de personnage. Une fois, il parle en anglais, après ça, il parle avec un gros accent keb, après ça, un accent plus aristocrate du futur. Donc, un gros bravo à eux. Et je vous partage tout de suite l'entrevue que j'ai réalisée avec eux. Fait que c'est ça, je me demandais comment vous était venue l'idée de traiter du sujet des baby boomers, puis est-ce que vous pensez qu'ils ont la capacité d'autodérision pour apprécier de se faire taquiner comme ça?
Ben, pour ce qui est de la qualité d'autodérision, oui, ils sont, tu sais, je veux dire, on a quand même, c'est une reprise, on a joué le spectacle avant, donc il y a quand même beaucoup de monde qui sont passés par la salle, dont beaucoup de équipes baby boomers, et en général, ils prennent la taquinerie avec un bon gros grain de sel, tu sais, ils sont, je pense, avant tout contents qu'on parle d'eux-mêmes.
Tant mieux.
Pour faire les deux, en fait, au départ, l'idée, c'est qu'on voulait faire un show avec un show de salon, thé à l'anglaise, qui aurait pu avoir un peu de budget. Là, fait qu'on savait pas exactement ça allait se déployer comment. Puis c'est comme apparu à un moment donné que ça allait être dans le futur, puis que c'était des gens, c'était comme les générations peut-être comme de nos enfants, de nos petits-enfants là, tu sais, qui rejettent nos valeurs. Donc, qui n'ont pas de téléphone, pas d'ordinateur, qui veulent refaire des soirées de poésie et tout. Puis là, un moment donné, c'est comme venu là, que il allait rechercher un baby boomer. Soit que, ça s'est fait, c'est vraiment parti du salon, je pense.
Oui, mais il y a aussi la notion de... on est arrivé au baby boomer par la notion de clone. Parce que, tu sais, on y réfléchit, on se dit, ah, les clones, on va avoir comme quelqu'un qui est à peu près un égal, finalement. Qui a à peu près notre âge. Puis après ça, on fait, ben non, si on clone quelqu'un maintenant, il va avoir l'âge d'un bébé. Fait que dans le fond, c'est comme faire des enfants, mais refuser que ce soit un enfant différent, tu sais, qui comporte autre chose. Et on veut que ce soit nous pareil. Fait que là, on s'est dit, cette notion-là d'avoir quelqu'un, finalement, tu sais, qui c'est nous pareil, c'est refuser finalement que les générations suivantes soient différentes. Fait que tu sais, c'est un petit peu de ça a été le point de départ, en fait, cette réflexion-là sur le legs des baby boomers puis leur façon d'entrevoir les générations suivantes. Et nous aussi, je veux dire, on taquine beaucoup les baby boomers, mais dans le fond, on est tous des baby boomers.
Oui, c'est que je disais, là, c'est que, tu sais, que on, finalement, on avait comme aussi les caractéristiques qu'on critiquait des baby boomers.
Ben,
que, c'est bien drôle. Puis,
oui.
Ça, je trouve que c'est comme une façon un peu originale de. Pas un peu, là, c'est une façon originale de traiter le sujet. Puis finalement, c'est tellement actuel autant en 2019 qu'en 2022. Là. Puis en tout cas, j'ai vraiment aimé la façon de traiter le sujet. Puis c'est ça, l'idée du clonage qui est vraiment appropriée. Puis je voulais savoir, vu que vous jouez dans la pièce, est-ce que le processus d'écriture était différent quand on écrit pour soi-même versus quand on écrit pour d'autres comédiens?
Ben oui et non, en sens que quand nous, Guillaume et moi, on écrit le texte vraiment à quatre mains, là, tu sais, on travaille sur un outil qui fait en sorte que on peut vraiment travailler la pâte sans souci de, tu sais, qui écrit quoi, quand et tout, là, puis dans l'aller-retour. Puis quand on écrit, on ne sait pas encore qui joue quoi. On est vraiment d'abord dans construire une partition, puis après ça, une fois qu'on a grosso modo le texte. Là, après ça, on fait « Ah, OK, bon, ben là, on dispatche. On dit, tu sais, qui joue quoi et tout. » Mais lors de l'écriture, c'est pas un souci. On essaie de pas réfléchir à ça. Ben, dans ce cas-ci, je me souviens, c'était vraiment... les marquis, c'était hyper aléatoire. Puis on a fait « Bon, ben là, on va le distribuer. » Puis là, poum, 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 poum. C'est comme ça que chacun des personnages de marquis sont nés. Mais à la base, à l'écriture, c'était pas... Il y avait pas cette volonté-là de créer des personnages pour soi. Qui nous ressemble cous humains. En fait, on voulait que ce soit ça, mais pour tout le show.
Non, mais même que souvent, les répliques sont là, mais on ne sait même pas qui l'a dit. Là. C'est des avatars là, de personnages. Puis éventuellement, c'est ça. Là, à un moment donné, on rap ça, là, puis ça se dessine. Ouais. C'est tout un processus. Non, c'est bon.
C'est ça aussi, le fait que chaque comédien, des fois, devient Gilles, puis les rôles s'échangent un peu. Fait que c'est vrai que finalement, chaque comédien a fait beaucoup de rôles différents pendant la pièce.
Ben, c'était aussi cette notion-là de se passer le personnage. C'est un truc c'est un motif qu'on reprend beaucoup d'un spectacle à l'autre, mais ça permet aussi de ne pas s'attacher à un visage pour ni Gilles Douillette ni Robert Douillette, qui sont pas mal les deux personnages qui se promènent le plus. Parce que c'est ça, comme c'est des clones, finalement, tout le monde peut être le clone de tout le monde. Il n'y a pas la notion de visage, qui est le double de qui, mais finalement. En se passant les personnages, on anonymise en quelque sorte, on virtualise le personnage, puis on peut accepter à ce moment-là que tout le monde ait la face pareille de l'autre, alors qu'on ne se ressemble pas d'en face pantoute.
Oui, c'est ça. Puis ça aurait pu être mélangeant, mais je trouvais que ça se faisait bien là, de se passer le personnage d'un comédien à l'autre. J'ai bien aimé cette partie-là aussi. Puis est-ce que vous trouvez est-ce que vous avez modifié un peu le spectacle depuis les représentations de 2019?
Bah,
non, pas vraiment.
C'est vraiment cosmétique. Là. Ça a été des « changé ouf, un petit bout de ci par là », mais tu sais, vraiment, là, ça reste, c'est le même show. C'est vraiment très peu de choses près. Là. Ouais.
Puis est-ce que vous trouvez que la réception est différente vu qu'il y a eu la COVID entre-temps? Est-ce que vous trouvez que ça a un impact ou pas du tout?
Je sais pas. À toi de nous le dire, tu sais. C'est aussi... galvanisant, là, je trouve, mais je serais curieux. C'est une bonne question.
Ouais. Honnêtement, je pense pas. Je pense que, tu sais, après, on peut se dire, ah, c'est peut-être la nature qui se répare, mais je pense que le public est intact. On sent pas qu'il y a trop. Il a souffert comme on a tous souffert, là, mais quand même, je pense qu'on a accès à la même écoute que celle qu'on avait en 2019.
Il y a des shows, effectivement, que, ben, tu sais, quand on revient de la COVID, c'est chargé de. Des gens sont contents de revenir au théâtre puis de soutenir tout ça, mais je pense que c'est une des raisons pour qu'on voulait faire une reprise de ça, étant donné que c'est dans le futur, puis le sujet s'adresse dans le fond au futur, mais aussi finalement aux années 70, si on veut, tout ça, fait que ça a comme rien à voir avec la COVID, puis effectivement, le public est assez intact, puis nous aussi, je pense que ça nous... on pense quand même pas à ça, tu sais... Alors que d'autres shows, des fois, t'es comme... Tu sais, La Grosse Noirceur, il y avait ça un peu... C'était un peu une fin du monde, tout ça. Fait que oui, c'était changé de ça. Celui-là, pas du tout. Puis c'était vraiment ça, le but. Là. On avait vraiment envie de légèreté puis de, tu sais, de reprendre le cardio, là, t'sais.
Puis rien qui puisse faire penser à la COVID aussi. Ça, c'est quand même un beau cadeau à offrir. Parce que des fois, tu fais « Ah, oh, j'avais pas pensé », puis là, tu l'écoutes, puis tu fais « Ah, il y a peut-être une résonance avec la notion de, d'enfermement. » Non, non, là, là, il y a rien, là. C'est un petit break. Ouais. Pendant une heure et demie, on peut ne pas penser à la COVID. Là.
Ah, c'est vraiment ça. C'était donc l'entrevue avec Olivier et Guillaume, les metteurs en scène et auteurs du Clown est triste, qui va être performé du 2, ben là, on n'est plus le 2, on est plus le 9, donc du 9 au 17 décembre prochain au Théâtre aux Écuries. Je vous encourage fortement à aller voir ça. Je vous parle maintenant de Lou-Adrienne Cassidy, qui s'est vue décerner le Lucien pour la catégorie Artiste de l'année au GAMIC dernièrement. Son album est sorti en 2021 et il s'appelle Lou-Adrienne Cassidy vous dit bonsoir. Donc je vous fais écouter ça va et La fin du monde à tous les jours.
Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Lâche juste pas, fais-toi un pas. Ça va Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Qui ont pleuré en m'accouchant, comme les enfants de mes enfants qui sont morts-nés en m'accouchant. Quand je suis seule, je suis pas seule, je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là. Lâche juste pas, fais-toi un pas. Ça va se change en eux coulant. tomber de haut.
Join us on Thursday, December 15th at La Sotarena for a community concert featuring performances by Johnny Void and Ida Toninato, a duo of Joseph Sanacandro and Stefan Christoff presenting La Lumière du Soleil dans un semi-sous-sol, a trio, Esther Boldage, Nicolas de Cross, and Alessandro Garino, taking place December 15th, La Sotarena, 4848 Saint Laurent. Doors 8 p.m., music 9. Pre-sale $12, $15 at the door. This show is co-presented by Everyday Ego, Howell Arts, and CKUT. See you there.
CKUT and Island Organics presents a Christmas fundraiser for Resilience Montreal. Featuring DJs Cristobal Urbina, DJ Killjoy, Talentino, and the premiere of Mandala Hi-Fi. With Boss Man, legendary dub poet Zibs, Cali, with special guest Spoon B, and DJ Picante. Mandela Hi-Fi. $20 at the door. $25 after 11. Sunday, December 18th. Timmy's Bar, 900 Ontario Street East. This is an official CKUT co-presentation.
Donc, avant les pubs, on écoutait « Ça va, ça va » et « La fin du monde à tous les jours » de Lou Adrian Cassidy. De l'album « Lou Adrian Cassidy vous dit bonsoir ». Donc, maintenant, je vous parle de « Superheroes Cry Too ». Donc, les super-héros aussi pleurent. C'est une performance qui est présentée du 8 au 11 décembre à Osgang Plaza, sur la rue Saint-Hubert. Donc, c'est aussi présenté aujourd'hui, mais c'est dans 20 minutes. Donc, si vous y êtes, tant mieux. Et sinon, vous pouvez encore y aller demain et après-demain. Et c'est par Fragment, qui est un collectif de 5 membres connectés par la communauté du street dance. Leur pratique artistique se fonde sur la musique hip-hop, la danse de rue et les arts visuels digitales sous un nouvel angle, loin des conventions. Ensemble, elles et ils allient leurs forces et spécialités pour créer une pièce à l'écriture hybride où les codes du street dance participent à offrir une signature protéiforme, expérimentale et explosive. Donc, c'est ça. Je suis allée la voir hier, cette performance. Et c'est spécial parce que, comme je le dis dans l'entrevue, moi et mon ami, on n'a pas du tout eu la même interprétation. Et je pense vraiment que c'est une pièce qui va venir te chercher par rapport à qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment, toi, personnellement. C'est une pièce très personnelle. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un cerveau. En tout cas, c'est ça mon impression quand je l'ai vue. Je vous en dis pas plus. Donc, c'est ça, c'est présenté deux fois demain à 15h et à 21h. Il y a des performances 18 ans et plus et des performances pour tous et toutes. Donc, je vous partage ça à l'instant. Fait que, ça, j'ai vu la performance hier, c'était super cool.
Ah, nice, t'es venu.
Oui. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Puis, c'était drôle parce que je suis venue avec mon ami, puis on avait tellement pas la même interprétation de ce que c'était. Fait que je suis comme curieuse de savoir c'était quoi, vous, vos intentions, dans le fond, en créant cette pièce-là.
Est-ce qu'on peut recevoir ta perception,
en fait? Oui, bien sûr. Dans le fond, moi, qu'est-ce que j'ai comme interprété, c'est que chaque personne était comme une émotion dans tout son spectre. T'sais, même dans un personnage, il y avait comme des ressentis différents, des émotions différentes. Puis, tu sais, des fois, il y avait une émotion qui prenait le dessus, des fois, l'autre personne prenait le dessus. Puis, j'imaginais comme que la pièce était juste un cerveau, puis que les émotions se promenaient dans le cerveau, genre.
Nice. Mais,
mon amie était comme, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a dit? Que chaque personnage avait plein d'émotions en elle, justement, puis que c'était comme juste un spectre dans toute la personne. Puis que, tu sais, elle a aussi souligné le fait que des fois, il y avait comme une relation de limite menaçante entre les personnes, puis après ça, c'est bienveillant, fait que c'est ça.
Mm-hmm.
Ouais.
Très bien! Nice. Alors, tu nous poses la question, c'est quoi notre but?
Exactement, vos intentions.
C'est l'histoire de quelqu'un qui s'en va au dépanneur. Non, mais c'est, je veux dire, du moment que les gens ils ressentent un certain degré, tu sais, autre que genre, mettons juste la danse ou le mouvement, puis du visuel de premier degré, mais les gens, on sent que, tu sais, ils sentent qu'ils sont concernés, quoi. Ils se sont comme involved dans ce qu'ils présentaient devant eux, so that's a cool thing. Puis si ça éveille des sujets ou des hypothèses de est-ce que ça rapporte vraiment comme avec les émotions, mais c'est un peu ça qu'on voulait puiser aussi, mais tant mieux que c'est ça que les gens ils se dirigent vers ça. C'est cool avec moi.
Parce que c'est sûr que nous autres, on a notre relation envers l'affaire, mais reste que le fait que toi, tu as ta propre relation à l'affaire, c'est notre succès, je trouve. Puis, tu sais, le titre, on l'a amené parce que, comme Chachi dit, c'est d'avoir senti les émotions, c'est une affaire, mais c'est aussi du fait que comme we're always trying to be superheroes, but we also cry. So c'est de ramener, tu sais, de go to space but come back to earth at the same time. Alors c'est ça qui est le fun pour nous, tu sais, comme de justement jouer avec le IRL, le son qui est en proximité de la danse, puis d'avoir le monde en proximité de la danse, c'est comme on revient sur Terre, même si, genre, le monde qu'on est en train de proposer, c'est comme, tu sais, c'est sûr que nous autres, on aime des affaires comme embellish, so we go there. C'est comme electric, mais en même temps, c'est on essaie d'être humain, genre.
C'est super cool. Puis le fait que vous demandiez aux gens, aux spectateurs de décrire leurs émotions, comment ils se sentaient avant d'assister à la pièce, j'ai l'impression que ça a peut-être comme intériorisé la manière après ça qu'ils ont ressenti la pièce, dans le sens où dès qu'on arrive, c'est OK, t'sais, on s'intériorise, on est comme qu'est-ce qu'on ressent. Ça fait qu'on est déjà comme plus ouvert à un peu. À j'arrive pas à formuler ma pensée, mais à recevoir qu'est-ce que la pièce va faire résonner en nous, peut-être? Est-ce que c'est de l'intention aussi?
Absolument. C'est un peu de comme donner un mind frame. Au lieu de lire un synopsis, l'exercice, c'est comme un state of mind. Puis c'est ça notre experiment. On a beaucoup, moi, puis Chash, gossé sur comment on allait faire le partage de l'exercice, mais en ce moment, ça semble aller, là.
Très cool.
Ouais, on voulait créer un moment où est-ce qu'on pouvait avoir justement un échange entre les gens qui assistent puis les performeurs, tu sais, avoir un échange qui est pas juste linéaire ou qui constante vers une direction, tu sais. Avoir un échange que, ouais, les gens ont l'ouverture d'avoir leur propre input, puis c'est cool de le marquer sur un papier, mais après ça, devant les danseurs, le prendre puis le lire, c'est comme, oh, ah, j'ai écrit mon secret le plus deep, là, j'espère qu'ils veulent. Mais, tu sais, c'est un peu ça, là.
Ok, très cool. Puis selon vous, et puis avec vos choix que vous avez faits, qu'est-ce que ça change autant pour le public que pour les artistes d'avoir un spectacle déambulatoire au lieu de juste des gradins, une scène, puis pas d'échange entre le public?
C'est quoi ta question, le début de ta question encore? C'est
D'avoir un,
quoi?
selon vous et selon vos choix que vous avez faits, d'avoir un spectacle déambulatoire où les gens peuvent se déplacer, qu'est-ce que ça change pour les artistes et le public?
Ben, pour nous, c'est drôle parce que comme, en fait, une grande partie de notre art, la manière qu'on l'exerce, ça a toujours été justement sur un espace qui est comme genre uniforme, quoi, un cypher en street dance, c'est honnêtement sur un stage que ça peut, que ça existe. T'sais, c'est vraiment on the closest you can get to the ground, que dans le fond, que les gens sont là tout au même niveau, type of thing. T'sais, c'est aussi,
En
c'est,
proximité,
on est juste nos bagages en tant que tel de street dancer, puis qu'on a juste appliqué. Puis qu'on se dit que ah, mais ça, c'est justement utiliser l'espace pour bouger, parce qu'on aime ça, bouger dans l'espace en tant que tel. On bouge tout le temps dans l'espace de notre propre mind en tant que danseur, mais tu sais, de le faire là en live, tu sais, c'est intéressant que d'être pris juste sur un stage ou une manière de voir les choses, tu sais, comme la vie n'est pas de même en tant que tel. Tu sais.
Oui, 100%. Le fait que c'était un spectacle qui parlait des émotions aussi, c'est, j'ai trouvé ça cool qu'on puisse avoir accès aux expressions faciales des interprètes de très proches. C'est quelque chose qu'on aurait perdu s'il y avait eu une estrade avec des gradins, puis si on a ben, été plus loin.
C'est différent pour eux. Comme performer en proximité de ton public, puis regarder ton public dans les yeux, c'est vraiment quelque chose. En tant que performeur, c'est ça que Chachi dit, c'est comme on peut avoir ces moments-là dans la communauté, mais de les amener dans l'idée du spectacle, c'est le fun.
Vraiment, 100%. Mais merci full, puis j'espère que ça va aussi bien aller ce soir puis demain. Je suis sûre que ça va être vraiment le fun aussi.
Cool. Ben, merci à toi.
Donc, c'était l'entrevue avec Céline et Richard qui sont à la co-direction artistique de Superheroes Cry 2, qui est encore présenté à Osgang Plaza jusqu'au 11 décembre. Donc maintenant, je vais vous parler de Sabourin Côté et de son single Mauvais Pli. Et elle le lance, il est co-réalisé avec Alex Métivier et c'est le premier single d'un EP à paraître au début de l'année prochaine. Apparemment que quand elle est devenue mère, Andréane a craint que ses deux sujets d'écriture principaux soient incompatibles, la douleur et la famille. Or, Mauvais Pli, c'est la réconciliation de ces deux thèmes-là.
Come and feel the fire.
C'était donc Mauvais pli de Andréane Sabourin-Côté. Merci d'avoir été avec nous, avec moi, vu que j'étais toute seule ce soir. Vous êtes encore sur Café pour quelques minutes. Et je vous laisse avec une pièce d'Olivia Coudray qui s'appelle Entrouverte. C'est une chanteuse musicienne montréalaise et la pièce est issue d'un EP bilingue de 6 titres qui paraîtra au printemps 2023. La chanson a été réalisée par Olivia et Renaud McCarthy et créée avec la partition des musiciens Jesse McCormack, Renaud McCarthy, Adrien Poulain, Olivier Gertin, Mark Nelson, Vincent Dessureau et Simon Brosseau.
el dolor. Ahora sé que se sufre por amor. La soledad ya se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie.
Welcome to November. This is Wayne Tennant, and you're listening to The Weekend Groove on CKUT 90.3 FM with Mr. Mikey Don and DJ Everton Green.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chocale ya chuvo la chuvo era ya casi kichis. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya tanta piu y arriba ni cuda o ni cuda para ni cuna. Cuna ca allí está que voy a ir a cuna chaymo cua que Puerto Rico nación manta pacha. Pai cuna sutik mi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que sutik mi Latinoamérica. Uy ari cusonchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día.